Chapitre 41. Pendant quelques instants, de ces instants qui sont des éternités, les Parthes continuèrent de lancer leurs flèches de tous côtés à la fois, sans même avoir besoin de tirer juste, tant les Romains, par l'ordre de bataille que leur avait fait prendre Crassus, présentaient une masse compacte. Chacune de ces terribles flèches portait donc dans un but vivant, frémissant, humain. Les coups étaient d'une violence extrême. Les arcs étaient si puissants, si grands, d'une courbure si flexible, qu'ils lançaient le trait avec une irrésistible impétuosité. La situation était effrayante. S'ils restaient en place, les Romains étaient criblés comme des cibles. S'ils essayaient de se porter en avant, le point du cercle sur lequel ils chargeaient cédait devant eux, et tandis que ceux des Parthes qui fuyaient pour éviter leurs atteintes leur lançaient des flèches en fuyant, ceux qui restaient en place les criblaient de flèches sur les deux côtés qu'ils mettaient à découvert. Une armée tout entière était prise comme dans un piège. Cependant, un espoir restait aux Romains. C'est que, quand les Parthes auraient épuisé leur carquois, ils se retireraient. Mais cet espoir ne fut pas de longue durée. Des chameaux chargés de traits circulèrent dans les rangs et les carquois vides se remplirent. Alors Crassus comprit la profondeur de l'abîme où il était tombé. Il envoya une ordonnance à son fils. Publius avait beaucoup de cavalerie sous ses ordres, et en outre ces Gaulois, qui, combattant à moitié nus, avaient les pieds presque aussi légers que ceux des chevaux. À tout prix, il fallait engager un combat corps à corps. Le jeune homme, rugissant comme un lion entouré de chasseurs, n'attendait que ce moment. Il prit 1300 cavaliers, et parmi eux, les 1000 qui lui venaient de César, 8 cohortes de soldats, moitié romains, moitié gaulois, et se jeta sur les Parthes qui caracolaient à côté de lui. Ceux-ci, soit qu'ils ne voulussent pas soutenir le choc, soit qu'ils obéissent aux ordres du surénat, cédèrent à l'instant même. « Il fuit !» cria Publius Crassus. « Il fuit !» répétèrent les soldats. Et cavaliers et fantassins se mirent à la poursuite de l'ennemi. À la tête de ces soldats, qui semblaient se dévouer furieusement à la mort, étaient Censorinus et Megabacchus. Un Romain, un barbare, son nom l'indique du moins. L'un remarquable par son courage et sa force, dit Plutarque, l'autre par sa dignité sénatoriale et son éloquence. Tous deux amis de Publius et du même âge que lui. Comme l'avait pensé le jeune chef, l'infanterie ne resta pas en arrière. Ce devait être une belle course à travers le désert que celle de ces cavaliers romains et celle de ces beaux Gaulois aux longs cheveux blonds, au torse à demi nu, qui s'élançaient, toujours riant, au devant du danger, le rencontraient, luttaient avec lui et tombaient sans jamais reculer d'un pas. C'était ainsi qu'à l'autre bout du monde venaient de tomber sous le fer des soldats de César 60 000 Nerviens. Mais cette fois, c'étaient les Romains qui devaient périr et les barbares triompher. Quand les Parthes virent ceux qui les poursuivaient hors de toute communication avec le gros de l'armée, ils s'arrêtèrent. Les Romains s'arrêtèrent de leur côté, pensant qu'en les voyant en si petit nombre, l'ennemi ne refuserait pas un combat corps à corps. Mais il n'en fut point ainsi. Les Parthes avaient adopté un mode de combat dont ils ne voulaient pas se départir. La grosse cavalerie partique tint ferme, en effet. Mais que pouvaient Romains et Gaulois, avec leurs javelines de 3 pieds de long et leurs courtes épées, contre des hommes couverts de cuir cru et de fer? D'ailleurs, la cavalerie légère les avait complètement enveloppés. Une mer de sable brûlant était soulevée autour d'eux. Ce nuage ardent aveuglait et étouffait les Romains en même temps. Puis, du milieu de ce nuage, jaillissaient incessamment ces effroyables flèches, c'est-à-dire la mort. Non pas une mort douce et prompte, mais lente et atroce. Les Romains étaient frappés et ne voyaient pas où frapper. C'était la foudre invisible et mortelle, quoiqu'invisible. Ils tournoyaient dans d'effroyables cercles, tombaient, se relevaient. Par cette espèce d'instinct qui fait que l'homme cherche l'homme, ils s'appuyaient les uns sur les autres, et alors ils présentaient de nouveau ce but vivant, cette cible frémissante qu'à une lieue de là continuait d'offrir le gros de l'armée. Les blessés se roulaient sur le sable embrasé, brisant dans leur corps les flèches dont ils étaient criblés. D'autres essayaient de les arracher eux-mêmes ou de les faire arracher par leurs compagnons, et tout leur corps frissonnait sous ces douleurs insupportables, sous ces déchirements de chair que leur causaient les fers barbelés. C'étaient des rugissements comme dans une arène, des rugissements de bêtes et non des lamentations et des plaintes d'hommes. Publius, au milieu de cette effroyable mêlée, de cet épouvantable tumulte, donna l'ordre de charger. Mais les soldats lui montrèrent leurs bras cloués à leurs boucliers cloués à leur corps, leurs pieds cloués à la terre, de sorte qu'il leur était impossible de fuir, d'attaquer, et à quelques-uns même de tomber. Alors il chargea, désespéré, avec le peu d'hommes qui étaient encore sans blessure. Il joignit la grosse cavalerie parthique. Mais les armes des Romains, trop faibles, s'émoussaient sur ses chevaux et ses cavaliers de fer. Les Gaulois, sur lesquels avait compté Publius, furent dignes d'eux-mêmes. Les Parthes frappaient avec des épieux ces hommes à la tête nue, aux bras nus, aux torses nus. Ceux-ci se cramponnaient aux hommes, les jetaient à bas de leurs chevaux, les étouffaient entre leurs mains, ne pouvant les blesser. D'autres se glissaient sous le ventre des chevaux, trouvaient un endroit désarmé, y plongeaient leur courte épée et fouillaient les entrailles de l'animal jusqu'à ce qu'il tombât, ou tout au moins jetât son cavalier par terre, et l'animal, bondissant de douleur, écrasait sous ses pieds Gaulois et Parthes, qui mouraient embrassés par la haine, comme des amants le seraient par l'amour. Au milieu de tout cela, la soif dévorante qui faisait souffrir plus que leurs blessures, les Gaulois surtout, ces Gaulois habitués aux larges fleuves, aux majestueuses rivières, aux ruisseaux limpides. Au bout d'une heure d'une effroyable boucherie, il ne restait plus de tout ce corps d'armée que 200 ou 300 hommes. On pensa à se retirer. Ces débris mutilés jetèrent leurs regards autour d'eux. Publius, blessé à 3 endroits, était encore debout sur son cheval, criblé de flèches. On se réunit autour de lui. Un mamelon de sable s'élevait à quelques pas de ce champ de bataille parthe. Par une habitude de stratégie, les survivants se retirèrent et se massèrent sur ce mamelon. On attacha les chevaux au centre. Les hommes se serrèrent autour des chevaux, réunissant leurs boucliers comme une muraille. Ils croyaient ainsi repousser plus facilement les attaques des barbares. Ils se trompaient, le contraire arriva. Dans une plaine unie, le premier rang protège le second le troisième. Là, au contraire, l'inégalité du terrain élevait le second rang au-dessus du premier et le troisième au-dessus du second, de sorte que, ceux qui étaient derrière se trouvant découverts de la moitié du corps, tous étaient également exposés. On vit la faute commise. Il était trop tard pour la réparer. Les soldats regardèrent Publius comme pour chercher dans ses yeux un dernier espoir. « Mourons !» répondit celui-ci. Résignés, les soldats répétèrent « Mourons !» Ils attendirent les coups qu'ils ne pouvaient plus rendre. Il y avait là, au milieu de tous ces hommes dévoués par Athéius aux deux infernaux, deux Grecs, deux habitants de la ville de Chars. Ils se nommaient Hiéronyme et Nicomachus. Il conseillait à Publius de s'ouvrir un chemin en brisant cette muraille qui l'enveloppait et de fuir par des chemins qu'il connaissait vers Ignès, ville située sur l'Euphrate. S'il parvenait à cette ville, qui avait pris le parti des Romains, leur salut était assuré. Publius regarda autour de lui. Il vit le champ de bataille couvert de morts et de mourants et, parmi ceux qui l'entouraient, la plupart blessés et incapables de le suivre. « Non, répondit-il aux deux Grecs, je resterai. »« Mais si tu restes, répondirent-ils, la mort est inévitable. »« Il n'y a pas de mort assez terrible, répondit le jeune homme, pour faire abandonner à Publius ceux qui meurent avec lui. »« Quant à vous, ajouta-t-il, vous êtes des Grecs, non des Romains, sauvez-vous. » Et leur tendant sa main gauche, car sa main droite était percée d'une flèche, il les congédia. Les deux Grecs lancèrent leurs chevaux au galop et disparurent dans le tourbillon de poussière soulevé par les Parthes. L'un d'eux se sauva et arriva à Ignès où il raconta ce qui s'était passé et comment il avait quitté Publius et quels étaient les derniers mots que le noble jeune homme lui avait dit. Eux partis, Publius se retourna vers ceux qui l'entouraient. « Maintenant, dit-il, comme il ne nous reste plus qu'à mourir, que chacun meure comme il l'entendra. » Et ne pouvant pas se tuer lui-même, blessé qu'il était à la main, Il présenta le défaut de sa cuirasse à son écuyer, qui lui enfonça son épée dans le côté gauche. Publius poussa un soupir et tomba. Censorinus mourut de la même manière. Mégabacus se tua lui-même. Ceux qui restaient se firent tuer jusqu'au dernier, à l'exception de quelques-uns que l'on prit vivants et qui donnèrent les détails de l'effroyable catastrophe. Les Parthes, ayant appris de leurs prisonniers le rang que tenait le jeune Publius Crassus, lui coupèrent la tête, la mirent au bout d'une pique et marchèrent contre le gros de l'armée romaine.